France Info. Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, comme chaque samedi à la même heure, sur France Info, Radio et Télé, en compagnie de Julien Langlais aujourd'hui. Bonjour Julien.
Bonjour Mathéo.
Du service politique de France Info. C'est vous, Julien, qui allez poser la première question à notre invité du jour, Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Alors Benoît Hamon lance aujourd'hui la deuxième étape de son mouvement au Mans cet après-midi. Il était l'invité de France Info lundi. On va l'écouter.
On va poser les fondations d'une nouvelle formation politique à gauche. J'annoncerai samedi prochain que nous avons passé les 40 000 membres en l'espace de quelques mois, ce qui veut dire que la dynamique est bel et bien là.
Est-ce que, comme Cécile Duflot, vous allez aller au Mans, Yannick Jadot ?
Non. Non, vous l'avez dit, Benoît Hamon lance son mouvement. Bien, c'est une belle initiative. Pour ma part, ma priorité, c'est d'élargir, d'ouvrir, de refonder un grand pilier de l'écologie politique. Je passe mes semaines à rencontrer des représentants de la société civile, des chefs d'entreprise, des paysans, des pêcheurs, des intellectuels, pour les faire revenir ou les faire venir à la politique, pour mettre l'écologie politique qui est tellement dans notre vie et tellement dans notre société aujourd'hui au cœur de la politique française.
Mais c'était pourtant votre candidat à l'élection présidentielle, le candidat de l'écologie, puisqu'on rappelle que vous vous étiez désisté en sa faveur. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous ?
Nous avions construit pour la présidentielle une plateforme présidentielle avec un beau projet. Les résultats évidemment n'ont pas été à la hauteur de nos espoirs, mais ça c'est la vie politique. Benoît a lancé son mouvement. Il est évident que si nous défendons les mêmes idées, il faudra de nouveau converger. Mais je crois que pour converger, il faut que l'écologie politique et le mouvement de l'écologie politique retrouvent de la crédibilité, reconstruisent de la curiosité dans la société et puis, encore une fois, mettre la question de la santé, du climat, la question de notre agriculture, la question de notre industrie et de la question de la création d'emplois, la question de l'Europe au cœur de son projet.
Le PS et les Verts ne vont pas forcément bien si on s'en tient uniquement aux résultats des dernières législatives ou sénatoriales. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, il faut continuer à s'allier entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ?
Je crois pas. Je ne crois pas. On est à l'échelle nationale dans un système de scrutin qui est extrêmement compliqué, puisque c'est un scrutin uninominal à deux tours, un scrutin majoritaire, qui fait qu'à un moment donné, si vous voulez avoir des élus, il faut s'allier. Mais tout ça nous a conduit souvent dans des jeux de tactique où finalement les électeurs et les électrices de l'écologie, ceux qui veulent voter, je le dis encore une fois, pour notre santé, celle de nos enfants, pour l'avenir de la planète, pour la solidarité, sont un peu perdus. Et je crois qu'aujourd'hui, notre sujet, y compris parce que les élections qui viennent sont les élections européennes, ce sont les élections municipales, nous devons absolument défendre nos idées sous nos propres couleurs.
C'est ce que vous allez dire au Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts qui
absolument
se tient aujourd'hui. C'est le parti des écologistes anonymes, titre Libération ce matin. Vous êtes d'accord avec ça ?
Il y a une éclipse du parti de l'écologie politique, mais mon sujet, comme pour l'ensemble des écologistes, c'est pas notre parti politique, c'est la question de l'écologie. C'est comment
la question de la survie quand même de votre parti.
Bien sûr, il faut des outils au service des idées. Il faut des machines aussi pour s'organiser. Il faut un système qui organise les militants. Vous savez, aujourd'hui, les écologistes, certes, le parti, on entend moins parler, mais les écologistes, c'est ceux qui se battent matin, midi et soir, pour la qualité de l'eau. C'est ceux qui se battent contre le gaz de schiste.
Il y a moins
c'est
de 5 000 militants aujourd'hui.
C'est ceux qui se battent contre le glyphosate. Hein. C'est ceux qui se battent pour le climat, contre le nucléaire. Et donc, c'est ça aussi. C'est un mouvement de l'écologie politique. C'est organiser ces personnes, peser comme nous le faisons au Parlement européen. C'est peser comme nous le faisons dans certaines régions et dans certaines municipalités. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on va bien ? Non. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit se saborder ? Ben je réponds par la négative aussi.
Pour en revenir à Benoît Hamon, son score avait été de 6,36% au premier tour et Arnaud Montebourg a dit récemment que son score avait été, je cite, le plus élevé pour un écolo à la présidentielle. C'est une forme de provoque, ça vous fait marrer ou
oui, jaune. Ça me fait marrer. Ouais. Ça me fait marrer, évidemment. En plus, il était sélectionné pour le prix de l'humour. Je l'étais aussi, donc j'ai eu un prix.
Vous avez perdu, c'est François Hollande qui a gagné.
Non, j'ai eu un prix.
Ah, d'accord.
Non. François Hollande a eu un prix pour toute son œuvre. Moi, j'ai eu un prix aussi de l'humour. Bon, mais On a besoin de donner à nos idées la crédibilité qu'elles ont aujourd'hui. Quand on voit le débat sur le glyphosate, tout le débat porté par la direction de la FNSEA et malheureusement le ministre de l'Agriculture, c'est « mais il n'y a pas d'alternative, on peut rien faire ». Si, il y a des alternatives. Il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui se passent du Roundup. Il y a des modèles qui respectent l'environnement, qui permettent de s'en passer. Sur la question de la transition énergétique, on y reviendra. Malheureusement, un ministre écolo dit « si c'est pas des centrales nucléaires, c'est des centrales charbon ». Eh ben non, ce que disent les écologistes, c'est qu'il faut absolument réduire le nucléaire pour qu'on enfin on s'attaque à notre ébriété énergétique, qu'on consomme moins dans les logements et qu'on développe les énergies renouvelables. Donc tout notre travail, c'est de dire à quel point les solutions écologiques aujourd'hui, elles sont crédibles, elles font rêver, mais en même temps elles sont crédibles, elles créent des emplois, elles relocalisent l'économie, elles nous permettent de redonner du lien social et d'avoir un projet pour notre jeunesse. C'est ça notre sujet.
Un mot pour terminer, vous pensez quoi de la présence de Cécile Duflot, comté de Benoît Hamon? Vous êtes déçu?
Elle fait ce qu'elle veut, Cécile Duflot. Je suis ni surpris, ni choqué. Elle a envie d'aller au mouvement de Benoît Hamon.
Ça vous déçoit, non?
Mais pourquoi ça me
décevrait? Non, mais c'est symbolique, par contre, pour rebondir sur ce que dit Julien, c'est-à-dire que des passerelles continuent d'exister, idéologiquement parlant, entre PS et les Verts, mais c'est
là,
peut-être une bonne chose.
Vous résumez le mouvement de Benoît Hamon, Parti
minute,
Socialiste,
ça,
je pense que c'est un des éléments qui a peut-être pas bien marché dans la campagne, qui a fait perdre en lisibilité justement ce projet qui est en rupture par rapport à la ligne du Parti Socialiste et à la ligne du précédent gouvernement, et ça n'a sûrement pas été assez lisible. Mais chacun fait ce qu'il veut dans ce moment. Je veux dire, d'une certaine façon, la bonne nouvelle de Macron, c'est qu'il a explosé les référentiels politiques. Mmh. Chacun, aujourd'hui, doit se resituer. Chacun essaye de retrouver une voie. La question n'est pas la loyauté définitive, la loyauté patriotique à un mouvement politique, c'est sur quelles idées on les refonde. Et moi, je porte l'idée que l'écologie politique doit être une force incontournable dans notre paysage politique parce qu'elle porte des valeurs absolument admirables.
Vous restez avec nous, évidemment. Yannick Jadot, dans un instant, vous fait réagir à une amabilité signée Nicolas Hulot à votre égard. 8h40, l'info David Dobat.
Et ce nouvel appel à la prudence lancé ce matin, notamment sur les routes du Var, des chutes de neige compliquent considérablement la circulation. 7 départements au total sont placés en alerte orange, neige, verglas. La région PACA est particulièrement concernée avec le Var, je vous le disais, mais également avec les Bouches-du-Rhône, encore avec les Alpes de Haute-Provence. Et puis prudence également, mais en Haute-Corse cette fois-ci, où des très fortes pluies sont à attendre. Les taux se resserrent sur Lafarge et ses activités en Syrie. 3 cadres sont mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui. Le cimentier est soupçonné d'avoir indirectement financé le groupe État islamique pour faire tourner sa cimenterie en Syrie. Les choses pourraient bien se compliquer également, mais pour Donald Trump, l'affaire d'ingérence russe durant la présidentielle américaine s'accélère désormais. Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, est inculpé. Il reconnaît avoir menti au FBI et accepte également de collaborer avec la justice. Et puis en foot, nouvelle défaite des Bordelais hier dans le cadre du premier match de la 16e journée de Ligue 1. Ils ont été battus par Dijon 3 buts à 2. À 17h, le PSG se déplace aujourd'hui sur le terrain de Strasbourg, 17e du classement. 5 matchs programmés à 20h, notamment Monaco-Angers ou bien encore Nice contre Metz.
France Info. 8h30 politique, toujours en compagnie de Julien Langlais du service politique de France Info et de notre invité Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Alors un certain Nicolas Hulot ne vous a pas épargné, c'était hier sur France Inter, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Il était interrogé sur une tribune où vous l'interpelliez dans l'Obs sur ses reculs, je cite, sur le CETA, les perturbateurs endocriniens ou le glyphosate. On l'écoute et on vous fait réagir.
Ce garçon me surprend. Non, enfin d'ailleurs, il me surprend pas parce qu'il est très prévisible. D'abord, il est constant. Dans une forme d'adresse à vous lancer des couteaux au moment où vous vous y attendez pas. Mais je m'en étonne pas parce que j'ai connu ça au moment des primaires d'Europe Écologie. Je suis pas sûr que, en étant aussi caricatural, il serve la cause qu'il est censé défendre.
Alors il y a un débat sur les cirques en ce moment. Vous êtes lanceur de couteaux, Yannick Jadot, dans le civil.
Les propos de Nicolas Hulot sont indignes. Ils sont indignes d'un discours politique où les enjeux dont on est censé avoir la responsabilité, la santé, l'avenir de la planète, la solidarité, sont bien au-delà de ce type d'attaque personnelle. Il n'y a pas de crime de lèse-majesté dans notre pays quand on critique ce que je considère être un recul assez grave sur la question du nucléaire. Dans la suite de son propos, Il dit qu'au fond, ce que je recherche, c'est des effets d'estrade ou d'être l'homme des médias. C'est assez comique d'ailleurs que ça vienne de lui, le fait d'être critiqué comme l'homme des médias. Vous savez, ma crédibilité comme écologiste, elle a 30 ans. J'ai travaillé, vécu en Afrique. Et j'ai travaillé avec les paysans africains. J'ai travaillé, vécu en Asie. Et j'ai travaillé dans les bidonvilles avec les femmes pauvres. J'ai dirigé les campagnes de Greenpeace. J'ai pris les boulons des pêcheurs de thon. Je suis rentré dans des zones nucléaires. J'ai arraché des OGM. Au Parlement européen aujourd'hui, on s'est battu pour que justement le Parlement européen vote la sortie du glyphosate. On s'est battu, on a gagné sur la pêche en eau profonde. Je me bats sur la pêche électrique. Je me suis battu et je continue à me battre sur le CETA et ses accords de libre-échange. Donc, j'ai pas de leçons à recevoir sur ma légitimité d'écologiste. Donc, est-ce que dans notre pays, permettez-moi d'être un peu solennel, est-ce que dans notre pays, la question, les Français, je pense, se foutent totalement des querelles de personnes. Ils se foutent totalement des états d'âme de Nicolas Hulot comme des miens, comme des vôtres.
C'est pour ça qu'on a d'autres
sujets. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on protège leur santé, qu'on offre un avenir à leurs enfants, qu'on sauve les derniers paysans, qu'on crée des emplois autour des énergies renouvelables et des économies d'énergie. C'est ça que veulent les Français. Les querelles de personnes, c'est pas au niveau, vraiment.
Dans votre propre parti, Pascal Durand a aussi critiqué finalement votre sortie, votre critique à l'égard de Nicolas Hulot.
Oui, il dit critiquer, c'est pour avoir des médias. Mais on devient fou, quoi. Les écologistes doivent être un repère dans la société sur ce qui est bon ou pas pour l'écologie. Quand Nicolas Hulot, il y a quelques temps, il disait encore « Je suis contre le centre d'enfouissement des déchets à Bure ». Et puis maintenant qu'il est ministre, il dit « Ah ben, j'ai gagné en maturité, je suis pour ». Quand Nicolas Hulot recule une échéance qui est liée à un débat démocratique fabuleux, la loi de transition énergétique, les industriels, les familles, les salariés...
Non mais est-ce que le fond de tout ça, Yannick Jadot, pardon, mais ce n'est pas que la position d'un ministre de l'écologie est de toute façon toujours un équilibre très délicat à trouver?
Il y a un équilibre très délicat, mais à partir du moment où moi je considère que l'écologie ne s'y retrouve pas, j'ai quand même le droit de le dire. Quand un ministre de sa propre initiative dit l'échéance 2025 sur les nucléaires, on la recule de 5 ans ou de 10 ans, alors que les experts indépendants de l'énergie confirment qu'on peut le faire, que moi ce que j'attends de Nicolas Hulot, c'est pas qu'il recule les échéances, c'est qu'il appelle à la mobilisation générale pour qu'on les respecte, ces échéances. On a tellement besoin de changer notre pays et d'avoir un beau projet.
Quand on est aux responsabilités, des fois aussi on est confronté à une certaine réalité.
Mais je dis pas le contraire. Je dis pas que la politique c'est pas un compromis. Voilà. Je dis que on est quand même, on peut être en capacité, quand les Françaises et les Français, encore une fois, sont aussi soucieux de leur avenir, de leur santé et de leurs enfants, de dire à un moment donné, cette décision-là, je considère qu'elle n'est pas bonne, sans que ce soit considéré comme une attaque personnelle ou un crime de lèse-majesté.
Alors, il y a une décision qui est très attendue, c'est le rapport sur Notre-Dame-des-Landes, le fameux aéroport que vous connaissez bien, puisque vous êtes élu européen dans cette région. Le rapport sera rendu le 13 décembre et Nicolas Hulot a annoncé donc chez nos confrères de France Inter que la décision sera rendue avant les fêtes. Vous attendez quoi comme décision sur cet aéroport?
Je n'imagine qu'une seule décision, c'est d'arrêter ce projet totalement dingue. On ne peut plus être dans la société du jetable. Là, l'idée, c'est de jeter un aéroport qui fonctionne aujourd'hui, qui est Nantes-Atlantique, pour en construire un autre, faire du béton, détruire de l'agriculture et de la biodiversité. Je n'imagine pas une seconde qu'on soit encore sur des politiques totalement dingues, où on gaspille l'argent public pour détruire l'environnement, abîmer notre santé, détruire des emplois. C'est pas possible. Donc, il va falloir à un moment donné, ça n'a pas été fait sous le précédent quinquennat, que ce gouvernement-là ait le courage de dire « Notre-Dame-des-Landes, c'était une connerie ». Ok, le processus a été mal fait. Ok, il y a eu une consultation.
On la balaye, tout la consultation, monde... on la balaye, du coup, on la prend pas en compte?
On est obligé de la prendre en compte, parce que les électeurs de Loire-Atlantique y ont participé. Mais moi, j'étais dans le Comité national de transition énergétique. C'était l'instance du précédent gouvernement présidé par Ségolène Royal. Il y avait les pour et les contre à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Les parlementaires, les maires, les départements, tout le monde a dit « la consultation de Valls est un piège absolu. Ça va abîmer la démocratie environnementale dans notre pays. » Eh ben, on va pas y échapper. Mais c'est pas parce que Valls a organisé une consultation totalement biaisée, qu'on doit détruire des zones humides, détruire de l'agriculture et gaspiller l'argent public. Il y a un aéroport, on le garde, on l'améliore, mais on sort de la société du jetable.
Vous direz bravo à Nicolas Hulot si l'aéroport est
abandonné ?
Mais
je dirais bravo, j'ai dit bravo au tweet d'Emmanuel Macron sur le glyphosate. Il a fait un tweet pro-environnement en 6 mois. J'ai dit bravo. Je regrette en revanche que dans un gouvernement aussi discipliné, dès le lendemain, le ministre Travers a dit « mais de toute façon, on n'interdira rien ». Le Premier ministre a dit « il n'y aura pas de décision unilatérale de la France sur le glyphosate ». Et même du côté de l'Élysée, on disait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais j'espère qu'on s'y tiendra.
Quand vous dites qu'il a fait un tweet en 6 mois, ça veut dire que la politique environnementale du gouvernement est illisible ou inexistante ?
Je dis selon que vous, pour l'instant, la promesse... Macron a fait un coup extraordinaire. Il a pris dans son gouvernement celui qui symbolise, pour les Françaises et les Français, l'engagement écologique. Donc il a fait un coup extraordinaire. Mais force est de constater que j'ai vu plus souvent Nicolas Hulot devant les médias dire bah, « finalement, sur le CETA, on ne pourra rien faire. Sur les perturbateurs endocriniens, on était obligé de reculer par rapport à Ségolène Royal. Ou sur le nucléaire, bah, le lobby nucléaire semble plus crédible que les écologistes. » voilà, je constate. Mais si ce gouvernement bascule, dit « c'est pas possible de laisser perdre autant d'emplois autour de la transition écologique. C'est pas possible d'empoisonner un peu plus nos citoyens. On a eu le cas de l'amiante. Est-ce qu'on peut tirer toutes les leçons de le cas de l'amiante ? Le cirque, le fameux le Centre international de recherche sur le cancer, qui alerte sur le glyphosate en disant que c'est un cancérogène, qui est contesté et par le ministre de l'Agriculture et par d'autres. Quand il a fait son alerte sur l'amiante, on a mis 23 ans à interdire l'amiante. Et on est autour de 150 000 morts. Est-ce qu'on peut éviter de faire les mêmes bêtises ?
On va parler avec vous, Yannick Jadot, dans un instant d'Europe, des élections européennes prévues en juin 2019. 8h50, le retour de David Doba pour l'info.
Barack Obama est à Paris. Il déjeunera ce midi à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Et le programme de l'ancien président américain est chargé puisqu'il doit également rencontrer François Hollande et Anne Hidalgo avant de tenir une conférence à la Maison de la Radio cet après-midi. 7 départements placés en vigilance orange, neige et verglas sont concernés: les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Et puis autre appel à la prudence lancé, mais qui concerne la Haute-Corse, cette fois-ci alerte orange aux pluies. L'enquête avance concernant la mort de Slobodan Praljak, qui est haut responsable international croate, s'est suicidé dans une salle d'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le contenu de la fiole qu'il a avalée a été identifié, il s'agit de cyanure. Les responsables néerlandais tentent maintenant de déterminer de quelle manière il s'est procuré ce poison. Et puis interdire les animaux sauvages dans les cirques en France, c'est le souhait d'une association, One Voice. Elle organise une manifestation, ce sera cet après-midi à 15h à Paris, plus précisément devant le chapiteau du cirque duquel un animal s'est échappé la semaine dernière, un tigre qui avait été abattu.
France Info. 8h30 politique sur France Info avec Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, et Julien Langlais du service politique de France Info.
Yannick Jadot, vous êtes député européen depuis 2009. Il y a eu des consultations à l'Élysée, puis à Matignon cette semaine concernant le principe de ces élections, et on s'achemine vers un retour donc à une liste nationale au lieu des 8 circonscriptions régionales qui existent aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la réaction du secrétaire général des Républicains Bernard Accoyer à la sortie justement de son entretien avec Édouard Philippe cette semaine.
Ce que le gouvernement s'apprête à faire va éloigner l'Europe des citoyens, éloigner l'Europe des territoires, éloigner l'Europe des régions françaises.
Voilà, Bernard Accoyer pour les Républicains. Vous partagez l'avis de Bernard Accoyer ?
Non, parce que on a un découpage en eurocirconscription aujourd'hui qui ne correspond à aucune réalité. Pour ma part, je suis élu de Bretagne, oui, des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes. C'est-à-dire que ma circonscription va de Cognac à Brest, en passant par Le Mans, Angers ou Poitiers. C'est totalement aberrant. Ça ne crée pas un ancrage territorial. Et puis, il faut pas être dans la confusion en permanence sur les scrutins.
C'est pas du tripatouillage, comme dit Bernard Accoyer ?
Ah non, c'était les 8 eurorégions qui étaient un tripatouillage. En fait, c'était une façon, un accord entre, à l'époque, l'UMP et le Parti Socialiste pour casser les listes nationales et casser l'effet de la proportionnelle pour les forces politiques moyennes ou petites. et que ce soit les plus gros qui, en cassant les circonscriptions, en fait, vous avez plus d'élus quand vous êtes plus gros. D'ailleurs, c'est pour ça que le Front National, en faisant 25% des voix à la précédente élection, a le tiers des postes. Donc, ça ne crée pas un ancrage territorial. Là, ce qu'il faut, c'est avoir une belle qualité de débat sur quel projet on veut pour l'Europe. Et ne pas faire croire que les élus sont là pour défendre uniquement un territoire. Bien sûr qu'on est ancré sur un territoire, on est ancré sur l'agriculture, la pêche, les entreprises. Mais surtout, notre grand sujet quand même des années qui viennent, c'est est-ce que on a des replis identitaires dans tous nos pays ? Est-ce que le nationalisme l'emporte ? Ou on crée une souveraineté européenne qui nous permet de lutter sur le climat, l'évasion fiscale, le dumping social, les sujets sur lesquels je travaille au Parlement européen aujourd'hui, et qu'on crée une souveraineté qui soit démocratique ? C'est ça le sujet.
Pour votre famille politique, c'est fondamentale cette élection européenne. Je m'explique, vous avez aujourd'hui aucun député, 4 sénateurs, vous êtes 6 députés européens, c'est là que vous pouvez vous faire entendre. Est-ce que vous d'ailleurs vous serez candidat pour cette élection
même?
On verra, on est dans cette démarche de réflexion. Là, on est à peine, enfin, on est un peu plus que mi-mandat. Oui, enfin, faut aussi laisser le temps. Là, je peux vous dire que mon quotidien, c'est de travailler à faire en sorte que le dumping social et le dumping environnemental entrent dans la législation européenne vis-à-vis des pays en dehors de l'Union européenne.
Mais vous avez besoin que les Verts soient représentés aujourd'hui.
Bien sûr, ouais. Mais c'est pas un sujet pour avoir des députés. C'est un sujet parce que pour les écologistes, on n'arrivera pas à gérer les grands problèmes de la planète si on n'a pas l'Europe comme acteur majeur de régulation de la mondialisation. On n'aura pas de projet de civilisation ouvert si ça ne se fait pas à l'échelle européenne. On ne va pas offrir à notre jeunesse l'idée de brûler le drapeau européen à l'Assemblée nationale. On ne va pas offrir à notre jeunesse l'idée que les Lituaniens sont infréquentables parce qu'on ne sait pas exactement où ils se trouvent sur la carte. Ça peut pas être ça, un projet de société. Si on veut régler la question de l'esclavage et des migrations en Libye et ailleurs, si on veut avoir un monde plus solidaire, si on veut être en capacité sur les grands médias numériques d'intervenir, si on veut une belle politique industrielle, si encore une fois on veut du métissage pour avoir une société ouverte, il nous faut l'Europe. Et c'est un beau projet qu'ont toujours porté les écologistes.
Alors, si le débat, vous n'avez pas peur d'être inaudible dans ces élections, même si c'est vrai que c'est dans un an et demi, mais si c'est pour ou contre l'Europe, finalement, c'est un peu l'inquiétude exprimée par Bernard Accoyer, c'est d'avoir du mal, finalement, à se faire entendre entre, d'un côté, l'exécutif, Emmanuel Macron, et de l'autre, finalement, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, sur une autre vision de l'Europe.
Il y a un risque, mais moi, je me refuse à limiter le débat au souverainisme européen contre souverainiste nationaliste. Moi, je suis un souverainiste européen, au sens où je crois à cette grande souveraineté qui nous permet de régler les problèmes du monde. Mais si l'Europe, aujourd'hui, a beaucoup déçu, si ces institutions sont perçues comme détestables par les citoyens européens, c'est pas la faute des anti-européens. C'est la faute de ceux qui se prétendent pro-européens depuis des années. Dans le schéma que vous me proposez de m'allier à Barroso, à Juncker, à la droite, parce qu'ils ont des discours pro-européens, alors que ce sont des euro-fainéants qui n'ont pas fait la convergence fiscale dont on avait besoin, qui n'ont pas vaincu le dumping social, qui n'ont pas mis en place cette grande Europe de la transition énergétique que j'appelle de mes voeux, avec des grands partenariats industriels, des partenariats de collectivités, pour qu'on soit au rendez-vous sur le climat, comme on soit au rendez-vous de l'emploi local. C'est ces sujets-là. Et ça, c'est les pro-européens qui ont échoué. Donc, il faut qu'on ait le débat au sein des pro-européens entre ceux qui ont un discours d'estrade sur l'Europe et ceux qui veulent agir pour protéger nos concitoyens.
Il nous reste 30 secondes, hélas. Vous étiez perplexe quant à la vision environnementale d'Emmanuel Macron. Sa vision européenne vous séduit davantage?
Mais
30 secondes,
Macron,
c'est quoi?
Macron fait toujours de beaux discours. Il a une vraie capacité à le faire et il projette quelque chose de positif. Nous verrons sur les actes. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Parce que si nos concitoyens font du parti de l'abstention le premier parti de France, c'est parce qu'ils sont toujours déçus du gouffre entre les actes et les discours. Dès que Macron fera des choses positives sur l'Europe, je serai là, y compris, si vous me le demandez, pour lui donner pour du crédit. Satisfaisite, de dire bravo, allons-y, c'est bien, j'ai pas de souci avec ça. J'ai toujours travaillé avec les gouvernements pour l'avenir de nos concitoyens.
Vous reviendrez peut-être bientôt pour nous le dire sur France Info. Merci d'être passé nous voir en tout cas ce matin à Yannick Jadot. Merci à vous, Julien Langlais, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour 8h30 Politique, comme son nom l'indique.